Europe 1. Écoutez le monde changer.
Merci beaucoup Élise Dangean, à tout à l'heure, 11h.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, à suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain, très étonnant, avec le formidable succès de la Charentaise. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et puis Bertrand Chamerois pour son écran de veille avec la conférence de Jean Castex. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Notre invité, le chef 3 étoiles Guy Savoie, lui aussi se met au click and collect. Il a beaucoup de choses à dire sur le confinement. Il était hier avec le ministre de l'économie, Hélène Manarino. Il va nous dresser le portrait inattendu de Guy Savoie. Et puis dans les indispensables, direction de la City, avec une série sur le monde de la finance et présentée par Margot Barallon, et séance de rattrapage des recettes mythiques de Guy Savoie avec l'ami Laurent Mariotte. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour.
Ça va mieux cette toux?
Ça va, oui,
vous entendez.
Petit chat dans la gorge.
C'est l'heure de votre écran de veille. Bertrand, qu'avez-vous regardé hier? Je vous pose la question, je l'ai dit.
Oui, mais il y a peut-être des gens qui arrivent maintenant. Donc
ouais,
c'est vrai. Le traditionnel rendez-vous du jeudi, toutes les deux semaines. Il ne s'agit pas d'envoyé spécial, mais de la conférence de presse de Jean Castex. Et si vous aviez regardé les infos dans les heures qui précèdent, ce point contenait autant de suspense et de rebondissements qu'un épisode de Rex chien policier.
Il ne devrait pas y avoir de bouleversement majeur ce soir. On se dirige peut-être vers le statu quo.
Le gouvernement pourrait opter pour un statu quo.
Ce sera un statu quo qui devrait prédominer.
Dès le début de l'après-midi, on savait déjà tout, à savoir que le Premier ministre n'allait rien annoncer de nouveau. Mais il est quand même bien pratique, ce Jean Castex. Si t'as raté les infos dans la journée, il te permet de les revoir le soir à 18h. C'est MyTF1, mais en costume, avec des petits cheveux et la tête de Dupontel.
C'est vrai que c'est drôle.
Pour ceux qui seraient passés à côté, voici un résumé de la conférence replay point d'étape de Jean Castex sur le reconfinement.
Non, rien n'a changé, tout a continué.
Il ne manquait que le soupule à col roulé, rien ne change donc jusqu'au 1er décembre au moins. Et Jean Popise a également calmé tout le monde sur les fêtes de fin d'année. Evelyne, pose ce chapon au marron immédiatement.
Notre objectif est de pouvoir permettre un nouvel allègement au moment des vacances de Noël, afin que les Français puissent passer des fêtes de fin d'année en famille.
Ouais.
Mais celles-ci ne pourront pas se tenir de la même manière que d'habitude.
Noël en Skype. Passer Noël en Skype. Oh non, mais et notre tonton gênant, il va les raconter à qui ces délires fumeux avant la Viennetta? Ah bah non, bah il lui reste les réseaux sociaux, ça va. Bon, et pour le 31, on fait comment le 31 décembre? Parce que moi je suis prêt, hein, j'ai calé le refrain à 28 secondes et j'ai les confettis à portée de main. 3, 2, 1...
Il ne serait pas raisonnable d'espérer pouvoir organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes, notamment pour le réveillon du 31 décembre.
Bon. Paf. Voyons quand même la flûte de Crémant à moitié pleine. La bonne nouvelle, c'est qu'on va échapper à cette traditionnelle et insupportable question habituellement dégainée dès la mi-octobre. Ah oui. Tu fais quoi pour le 31 décembre? Cette année, on fera tous la même chose. On regardera des vidéos de chats qui tombent sur TF1 avec Karine Ferry. Donc, c'est réglé. Était également présente au point presse la ministre des Hotlines, du Travail, pardon, Elisabeth Borne, qui a annoncé la création d'un nouveau numéro vert. Un problème, un numéro vert. Covid, canicule, Lubrizol, propriétaire de chevaux, burn-out, punaise de lit. Pour tout ça, il y a un numéro vert et je vous jure que c'est vrai. Il y en a tellement que je serais incapable de vous dire à combien on en est aujourd'hui. Il faudrait qu'il crée un nouveau numéro vert pour nous dire au combientième on en est. Mais ce n'était pas la seule annonce de la ministre. Attention, accrochez-vous.
Nous avons mené une enquête auprès de 2000 Français. Première confirmation de cette enquête... Tous les Français ne peuvent pas télétravailler.
Sans déconner, c'est le résultat d'une enquête. Il fallait vraiment une enquête pour ça. Attendez, j'imagine le truc dans les couloirs du ministère. Madame la ministre, nous avons les résultats. L'enquête est formelle. Il est impossible de télétravailler quand on est ouvrier du BTP. Merci Hervé et bravo. Encore une enquête rondement menée. Hier, Jean Castex, Olivier Véran, Jean-Michel Blanquer, Bruno Le Maire et Elisabeth Borne ont balayé tous les sujets, tous, sauf la culture.
Quoi ?
La culture.
J'entends pas, Bertrand.
La culture ! Mais faut pas le dire trop fort, c'est comme Voldemort. Mais c'est vrai, ça. Et la culture, bah vous connaissez le proverbe, la culture, c'est comme la confiture. Elle moisit au fond du frigo entre un vieux sachet de sauce piquante et de l'anticerne. Je crois que c'était ça, le proverbe.
Oui, c'est ça.
Exactement ça. Merci beaucoup, Bertrand. Mon Dieu, oui. On a bien rigolé. Eva Rock, bonjour.
Non,
je vous dis bonjour, je vous
mais
dis rebonjour.
Mais on peut dire rebonjour, c'est pas grave.
Votre thème du jour, c'est quoi? C'est votre zapping du lendemain. C'est quoi le thème du jour pour ce week-end qui arrive?
Les success stories, vous allez voir, elles sont dans des genres très différents ce week-end. Demain, dans 13h15, le samedi, retour sur un succès très, très français. La Charentaise, eh oui messieurs, la pantoufle, le chausson douillet qui a bien failli disparaître. Il y a un an, l'usine principale était placée en liquidation judiciaire et heureusement, Olivier Rondineau, arrière-petit-fils du créateur de la Charentaise, a décidé de maintenir l'activité. Mais d'ailleurs, ça vient d'où la Charentaise?
La Charentaise a vu le jour sous Louis XIV. Pour la semelle, des artisans ont eu l'idée de récupérer le feutre issu de l'industrie du papier. Et pour le chausson, ils utilisaient les chutes de tissu des uniformes de la marine.
Ah. Ben voilà, l'histoire d'un patrimoine français qui aurait pu s'achever quand même avec une étiquette Made in China, mais qui a réussi à résister aux attaques de la concurrence étrangère. Alors en parlant de concurrence d'ailleurs, il y a un secteur d'activité où elle est extrêmement rude cette concurrence, les toilettes. Non, je ne plaisante pas. Et les Japonais sont premiers sur ce marché. Success story de l'entreprise Toto, notamment, qui invente des toilettes de plus en plus high-tech. Alors masquer le bruit du pipi, concevoir des sièges chauffants, et ça va même encore plus loin.
Certains modèles analysaient l'urine et visaient à assister les seniors préoccupés par leur état de santé. D'autres étaient capables de détecter une grossesse et de livrer des informations sur le cycle menstruel féminin.
Et hop, visite médicale express donc à chaque passage au WC. Alors ça peut prêter à sourire, mais ce documentaire d'Arte montre surtout quels sont les enjeux. En Occident, on cherche à réduire la consommation d'eau. En Inde ou en Afrique, on cherche surtout à installer des toilettes pour la population. C'est une question majeure de santé publique. Un tiers de l'humanité n'y a pas accès. Un documentaire très décalé donc, avec recyclage de pipi et parc d'attractions sur le thème du caca. Je vous jure que c'est vrai. Eh oui. Et puis dernière success story. Le rap et Marseille, évidemment, formidable documentaire à voir sur France 5 qui raconte le succès du rap marseillais depuis les années 80 avec IAM jusqu'à Jul aujourd'hui. Akhenaton, leader d'IAM, raconte comment, avec ses camarades du groupe, il a eu accès au hip-hop à leur début. Eh bien, il a suffi notamment de quelques Marines accostant au port de Marseille.
Ils avaient une radio sur le bateau qui recevait toutes les nouveautés des États-Unis, donc on s'asseyait, on se faisait écouter les cassettes et tout. Ils étaient étonnés que Kéops et toutes ces nouveautés soient autant à la page. Il y avait des soirées où il y en avait certains qui montaient sur scène pour faire des freestyles, et puis il y avait des jours où c'était tendu, hein, et on se frittait avec eux, hein. C'était des bonnes carcasses, d'ailleurs j'avais perdu quelques dents.
Voilà, IAM qui reste un modèle pour plusieurs générations de rappeurs, avec ou sans dents. Et puis Marseille, la belle, celle à laquelle ils sont tous attachés. Ils revendiquent leur identité marseillaise, souvent contre le centralisme parisien. Et dans cette histoire à succès, il y a Soprano, le minot du groupe psychiatre de la rime, devenu une star. Et il n'était pas vraiment destiné à devenir chanteur.
Mon destin était de devenir imam. Moi. Ça veut dire que j'avais gagné une bourse en Égypte pour aller continuer à faire des cours coraniques. J'avais gagné un concours de danse hip-hop en bas de la fenêtre de mon prof, de mon imam. Le jour d'après, j'avais cours. Il m'a dit, non, tu viens plus. Dans leur tête, c'était haram. C'était mauvais, le diable l'a eu, tu vois ce que j'étais.
Alors, tous les témoignages sont étonnants, les accents chantent, ça transpire le respect entre eux, l'amitié souvent, puis un attachement profond à cette ville qui s'enfonce malheureusement depuis quelques années dans la violence et la pauvreté. Alors, je récapitule ce week-end. Les Charentaises, c'est dans 13h15 le samedi, demain sur France 2. Toilettes sans tabou est à voir sur Arte à 22h25, toujours demain. Et puis Marseille, planète durable, je vais y arriver. Et à savourer sur France 5 demain aussi à 22h30.
Voilà. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci beaucoup. Bertrand Chamerois,
bon
plaisir
week-end.
D'avoir tous les deux près de moi tous les jours.
Bon plaisir week-end. Partagé.
On continue, c'est sympa. Dans un instant, on sera avec notre invité, le chef étoilé Guy Savoy. Mais d'abord, musique avec Terre Noire. Te moque pas, toi.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
Bonjour Guy Savoy.
Bonjour.
Je parlais un peu vite, chef cuisinier, 3 étoiles au Guide Michelin en 2002. À l'époque, vous étiez rue Troyon, vous avez quitté pour le restaurant La Monnaie de Paris, endroit sublime dans Paris, classé monument historique. On rejoint la culture, La Monnaie de Paris, qui a été désignée pour la 4e année consécutive comme la meilleure table du monde par la liste, un classement de 10 000 restos dans le monde. Vous êtes un amoureux de la culture, de l'art contemporain, on va en reparler. Mais d'abord, l'actualité. Avant de faire à manger, il faut pouvoir soi-même manger. Et il y a de plus en plus de restaurateurs qui craignent de ne pas pouvoir passer l'année. Hier, le Premier ministre donne une conférence de presse très attendue, voire redoutée. Il a annoncé le maintien des règles de confinement telles qu'on les connaît. Ça signifie notamment que bars, restaurants, les salles de sport, bibliothèques, théâtres, musées, commerces non essentiels vont rester fermés. Réaction ?
Réaction, je crois que ce matin, il y a une forme de sidération. Bien sûr, on a tous envie d'être révoltés, mais on a, là, en ce moment, aujourd'hui, on n'a pas la force parce que on trouve à la fois ces mesures injustes, bien sûr, parce qu'incohérentes. Je ne vois pas où est le danger dans un restaurant. D'ailleurs, un grand nombre d'entre nous avons fait les investissements pour respecter les règles sanitaires.
Attendez, alors, je mets les pieds dans le plat. Pardonnez-moi, Guy Savoie. D'abord, je vais dire que votre confrère, le cuisinier Philippe Etchebest, s'est dit dégoûté par ce qui a été annoncé. On est sacrifié, dit Yves Candebord. Oui. Vous dites là, à l'instant, nous, on prend toutes les mesures. Pardon de vous dire ça. Une étude américaine publiée mardi dans Nature, grand magazine scientifique, les chercheurs ont analysé le mouvement des populations dans 10 grandes métropoles américaines avec les données de géolocalisation horaire. 98 millions de personnes, les déplacements ont été testés en anonyme. Mmh. Ils ont ensuite utilisé ça pour évaluer l'évolution de l'épidémie de mars à mai, lors de la première vague qui a touché le pays. Je suis obligé d'expliquer tout le contexte. D'accord. Pour qu'on ne se dise pas, ah, c'est la petite étude menée sur, ouais, 2000 personnes. Résultat, les lieux accueillants du public où le risque d'infection est le plus important sont dans l'ordre les restaurants, les salles de sport, les cafés, les bars, les hôtels et les lieux de culte.
Mais c'est une étude américaine.
Oui.
Où on ne peut pas comparer la restauration américaine à la restauration française. Hein, on a un grand nombre de lieux où la distanciation des tables est largement suffisante, où ceux qui ne l'avaient pas se sont mis en ordre de marche pour respecter toutes ces règles. Et on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire simplement d'une aide avec le chômage partiel.
Ouais.
C'est pas possible. Une entreprise, ce ne sont pas que des salaires. Il y a des frais fixes, ouais, qui représentent à peu près 20% du chiffre d'affaires. Et là, on va bientôt être à 6 mois de fermeture. C'est impossible, c'est insoutenable moralement, c'est insoutenable financièrement. Et je dis maintenant, bon, ces mesures sont prises, mais qu'on fasse en sorte que toutes nos entreprises puissent perdurer. Parce que là, il va y avoir des grands dégâts. Et ce qui fait la singularité de la France, c'est-à-dire tous ces lieux de vie que sont les restaurants, les cafés, les théâtres, enfin tout, vont disparaître.
Malheureusement.
Parce qu'ils ne pourront pas tenir. Alors dans quel état on va retrouver l'outil France qui fait rêver la planète entière et qui attire, je crois, 80 ou 90 millions de touristes? Non, c'est ce qui se passe là est très grave, très dangereux, bien sûr financièrement, bien sûr pour la formation, parce que deviennent tous les apprentis, les stagiaires qu'on a chez nous? Quand un stagiaire a 3 mois de stage en entreprise, il n'a pas pu les faire. Donc, son année de formation est...
J'ai bien compris tout ça. Je comprends et je comprends absolument votre émotion, Guy Savoie. En même temps, c'est la quadrature du cercle. Parce qu'en même temps, les médecins vous disent les hôpitaux sont engorgés. Évidemment, j'ai absolument pas de solution. Demain, vous allez rencontrer le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Qu'allez-vous lui dire ce soir?
Mais je vais lui dire on va lui dire, on est quelques-uns à aller lui rendre visite.
Mais qu'attendez-vous de lui? Parce que qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire oui, mais le comité nous dit que c'est trop dangereux d'ouvrir les restos.
À ce moment-là, bon, si on considère que c'est dangereux d'ouvrir les restos, qu'on fasse tout ce qu'il faut pour que ces restaurants puissent rouvrir lorsque cette crise sanitaire sera terminée. Et là, pour l'instant, on ne peut pas se satisfaire simplement du chômage partiel.
Vous avez peur pour vos établissements? Vous en avez 4, dont un qui est le navire amiral, très très haut de gamme, et d'autres restaurants de grande qualité, mais qui sont moins haut de gamme. Vous avez peur vraiment pour la survie?
Bien sûr, mais très très peur. Mais
les 4?
Très très peur. Très peur pour tous, à des degrés différents, mais je n'exclus pas, en tout cas sur 3, d'être contraint de déposer le bilan. C'est évident, si cette situation doit perdurer. J'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on fait tout pour sauver les vacances et on ne fait rien pour sauver le travail. C'est quand même insensé, quoi. On est en dehors de tout bon sens.
C'est parce que Noël est une grande, grande fête familiale.
Mais
c'est
ça
qu'ils veulent sauver.
Les vacances de la Toussaint également. Enfin, mais il y a un moment, mais est-ce qu'on doit pas d'abord penser au travail? Je veux dire, on n'a pas de scrupules pour entasser les gens dans les transports en commun. Alors, bien sûr, vous me citez que les restaurants, selon une enquête américaine, mais est-ce que les transports en commun sont...
C'est pas dans l'enquête, mais en même temps, les transports en commun ne sont pas développés aux États-Unis comme en France.
Oui, les restaurants aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en France, donc on peut pas prendre des enquêtes américaines et la transposer ici, c'est impossible, quoi. Je veux dire, là, on n'est pas... En tout cas, moi, je vais vous citer l'exemple de la maison. On est 65 à travailler...
À la Monnaie de Paris.
Depuis le mois de mars, aucun n'a été infecté.
Alors, il y a une part de chance, hein, et ça ne me fait pas oublier tous les drames qu'il peut y avoir autour de ce virus. Mais voilà. Et puis, sur les 120 collaborateurs à Paris, aucun n'a été infecté. Ça veut bien dire que les règles d'hygiène, maintenant qu'on appelle règles sanitaires, c'est dans l'ADN des restaurants. Donc, on est inattaquable là-dessus.
Guy Savoie, avec nous dans ce studio, on comprend votre émotion dans notre émission avec un masque. Elle arrive également avec un masque et des infos non masquées. C'est Hélène Manarino. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Guy Savoie, chef triplement étoilé, à qui je suis heureux de présenter Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bienvenue, c'est l'heure de votre portrait inattendu.
Bonjour Guy Savoie. Alors ce matin, je vous propose de faire le tour des choses qui vous composent, vos ingrédients en quelque sorte. Alors Guy Tou, votre surnom petit, vous aimez être qualifié d'aubergiste, d'artisan. Bernard Loiseau, vous l'avez dit, tu vas pas passer ta vie à vider le cul des poulets. Ça fait combien de temps que je te dis qu'il te faut une place de chef ? Jean-Pierre Coff, quant à lui, vous a appris l'importance de l'accueil, de la salle, de la psychologie du client. Chef, vous l'êtes, chef d'équipe, le collectif avant tout. Cela vient de votre passion et votre pratique du rugby, évidemment. Comme vous dites, chaque table est une action de jeu, avec une règle précise. Vous mettez un point d'honneur à toujours être à l'heure au début du service. Bon, par conséquent, vous n'êtes jamais disponible pour faire l'émission de Laurent Mariotte sur Europe 1.
Ah oui.
Notre chef de la station.
Il est jaloux. Il est jaloux que j'écoute.
Que vous écoutez, en plus.
Et il va venir tout à l'heure, Laurent Mariotte.
Beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir.
Attention Guy Savoie, vous êtes aussi superstitieux. Ne jamais être 13 à table. Le souci du détail surtout que vos parents vous ont transmis. Oui, l'odeur de l'auberge de votre maman et la recette de la langue de chat, votre Madeleine de Proust. Elle vous en faisait régulièrement. Très proche d'elle, vous êtes aussi un grand amateur d'art. Vous avez quelques tableaux, dont un dans votre salon en hommage à votre maman. Une enfance que vous aimez revisiter dans vos plats ou votre quotidien. Mais surtout, lorsque vous entendez cette chanson. Qu'est-ce que ça vous émeut à chaque fois?
Ça vous fait pleurer, Guy Savoie?
Non, mais ça m'émeut parce que c'est... Je crois que c'est la première fois que j'ai eu accès à la musique à travers le visage de mon père. Qui, lorsqu'il écoutait ce chant, il est d'origine du canton de Fribourg, en Suisse, qui est un peu... Ce chant, c'est à la fois des paysages et une ode à la vie rurale, à la montagne. Donc, et c'est vrai que maintenant, ce chant me trouble parce que, oui, c'est plein de souvenirs, à la fois d'enfance et je dirais même de ses 90 ans, parce que j'ai fait venir des chanteurs pour lui chanter cette chanson, pour lui chanter ce chant qui vient de ses origines, quoi. Ouais. Donc c'est les racines, c'est important pour
c'est
un être champ, humain.
C'est un chant traditionnel suisse qui s'appelle le lioba, c'est bien ça.
Oui, enfin le rang des vaches, lioba, qui est un. Alors certains voudraient que ce soit l'hymne national suisse. C'est l'hymne cantonal fribourgeois. Mais c'est vrai que dans ce chant, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se dégage entre les souvenirs, Et cette vie à la montagne qui peut être rude, mais à la fois belle à travers les paysages et les métiers de la montagne.
En tout cas, bravo d'avoir trouvé. Quelle émotion, Guy Savoie.
Hélène. Oui, on va revenir justement à vos racines, puisque c'est une enfance plongée dans la nature où des jeux de pistes étaient organisés. Aujourd'hui, vous avez gardé cette connexion. Vous aimez les randonnées, vous venez de le dire, le vélo, vous évadez avec, si possible, la chartreuse. Et oui, des moines, le même chemin tout le temps, également à Paris, hôtel de la Monnaie, les bouquins. Le Louvre. Alors, Guy Savoie, l'exigence, la précision vous caractérise également. Vous aimez que les choses soient carrées, surtout avec du bon sens, sinon ça vous agace. Votre dernier fou rire, le non-sens dans l'actualité, selon vous, la fermeture de restaurants alors que les transports en commun sont ouverts. Votre rêve aujourd'hui, retourner travailler. Vous aimez réaliser vos plats, comme vous dites, gourmands à la maison. Votre passion, le sorbet au lait d'amande. Votre geste au quotidien, dès le réveil, un jus de concombre avec du gingembre pour nettoyer le corps.
Oui.
Observateur.
Il y a des espions qui ont parlé.
Ouais.
Observateur, vous aimez aussi voir ce que les autres ne voient pas. Guy Savoie, il y a aussi ces activités qui vous détendent, le kung-fu, lire le dernier livre de Philippe Labro, réaliser vos confitures. En ce moment, c'est une confiture de pommes que vous faites. Regardez les émissions de Nagui à la télévision. Vous venez également de revoir tous les James Bond avec Sean Connery. mais celui que vous préférez, c'est lui.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé.
Brassens, évidemment, oui, il est dans votre brigade. Avec Jacques Brel, sûrement, vous aimez les textes, les mots, vous auriez pu être parolier, peut-être. Alors, je vais terminer ce portrait par une anecdote d'une cliente fidèle, de longue date. Elle fête toutes les années son anniversaire au restaurant en famille, avec ses petits-enfants. Et le jour de ses 92 ans, elle est arrivée au restaurant et elle a dit « De Gaulle a dit la vieillesse est un naufrage, mais il a oublié d'ajouter « Il y a une bouée de sauvetage, Guy Savoy ». Comme vous le dites, Philippe, pas de chute après la chute.
Wow. Je me souviens que lorsqu'elle était arrivée, la porte, j'étais dans l'entrée, la porte s'est ouverte, elle va vraiment déclamer ces deux phrases. Et c'est vrai que là aussi, j'ai été dans l'émotion totale, parce qu'elle l'a tellement bien dit, à la fois avec son cœur, avec son... Et c'était beau, quoi. C'était beau à écouter. Voilà.
Pas de chute après la chute. Merci beaucoup, Hélène Manarino.
Merci.
Bon week-end. Merci encore. Dans un instant. Attention, on va faire pleurer Guy Savoy encore avec cette hymne. Pourvu que ce ne soit pas l'hymne de la Suisse à chaque match, vous allez être en larmes. Dans un instant, notre premier indispensable, c'est l'ami Laurent Mariotte qui va revenir sur vos recettes mythiques, avec notamment un dessert qui rend dingue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Guy Savoy, chef triplement étoilé, 4 restaurants à Paris, dont un 3 étoiles et d'autres restaurants dont on va parler. On parlait hier de la conférence de presse de Jean Castex, le Premier ministre. Aucune mesure d'assouplissement en vue et surtout pas pour les restaurants. Ils cèdent de viser Noël. Il n'y a pas que les banques dans la vie, il n'y a pas que les loyers dans la vie, il y a aussi la question des assurances. Ça fait des mois qu'il y a des restaurateurs qui attaquent leur compagnie d'assurance qui ne les a pas soutenus pendant la crise. Et cette contestation a eu un effet funeste. Au 1er janvier 2021, le risque de pandémie qui figurait sur certains contrats sera exclu de la couverture des pertes de chiffre d'affaires, un avenant obligatoire sur tous les contrats. Réaction Guy Savoy.
Mais je crois qu'il va falloir maintenant que toute la profession s'unisse pour trouver un contrat qui corresponde à nos contraintes, à nos exigences et au risque futur.
Personne ne veut vous assurer, en tout cas si personne ne veut assurer ce risque.
On va forcément trouver un assureur qui veut assurer ce risque. Quand on voit le nombre de maisons qu'on représente, et puis pourquoi pas ne pas dépasser le cadre de la France, hein. Je pense qu'au niveau européen, on peut trouver, je pense, une compagnie d'assurance qui couvrira des risques spécifiques, en tout cas à notre profession.
On parle aussi des loyers. Est-ce que vous-même, vous avez peur sur les loyers? La Monnaie de Paris, c'est pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous, ça ne vous appartient pas,
non,
évidemment.
Bon,
c'est
là,
un monument historique.
Je suis en négociation avec eux, mais bon, il y a des cas, dans l'une de mes maisons, les propriétaires sont des personnes qui ont plus de 90 ans et qui ont absolument besoin de cet argent pour vivre. Donc, c'est très compliqué, je crois.
Encore
une fois, non, mais encore une fois, bon, la décision vient de l'État, hein, de ces fermetures. Ben, c'est à l'État d'assumer les conséquences financières de cette fermeture. Bon, bien sûr, ils l'ont fait au niveau des salaires, mais encore une fois, une entreprise, ce ne sont pas que des salaires. Ben, vous l'avez dit, les loyers, c'est les primes d'assurance, ce sont les banques, encore, moi j'ai certains confrères dont les banquiers n'ont encore pas repoussé les échéances. Donc ça aussi, je pense que l'État doit faire quelque chose dans ce sens, parce que on ne peut pas, quoi, rien ne rentre en chiffre d'affaires et un grand nombre de dépenses continuent.
Un peu rentre en chiffre d'affaires, il y a le click and collect, on va en parler, on peut aller dans vos restos, prendre des choses, on va en parler tout à l'heure, dans la dernière partie de cette émission, mais j'aurais donné la parole au camarade Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe
Vondel. Laurent, bonjour. Vous allez nous dresser le portrait.
J'espère qu'il ne m'en veut pas que je sois venu. Mais c'est une mauvaise heure son émission.
C'est bon signe, ça veut dire qu'il est en cuisine, justement. Donc
c'est comme si vous faisiez une émission de foot pendant les matchs.
Exactement.
Personne ne pourrait venir.
C'est un peu ça.
Ce matin, vous allez dresser le portrait de Guy Savoy à travers 3 recettes indissociables de lui. Avant de parler de son plat signature, il faut remonter à son enfance.
Exactement, direction la buvette de l'Esplanade à Bourgoin-Jallieu. Hélène Manarino en parlait il y a peu de temps. À 15 ans, votre maman Guy doit se faire opérer. Votre papa s'occupe du bar. Il pense fermer le restaurant parce qu'il ne trouve pas de cuisinière. Et c'est là que tout commence vraiment pour vous, Guy Savoy. Comme vous avez souvent insisté votre maman au fourneau, vous vous lancez et vous dites à votre papa, c'est moi qui vais cuisiner. Ça s'est passé comme ça.
Ça s'est passé comme ça, absolument.
À 15 ans.
Mais une grande part d'inconscience.
Ouais. Et un des premiers plats phares de l'esplanade, ce sont les truites meunières.
Absolument.
Hein, c'était vraiment le plat signature de l'auberge. Et il y a quelques années, moi j'ai vécu un moment très émouvant, Philippe, avec Guy Savoie. Je lui ai demandé de refaire ses truites meunières. Ouais, on avait rendez-vous encore rue Troyon, il n'était pas encore à l'hôtel de la Monnaie. Et j'ai vu un homme qui a 3 étoiles et qui m'a dit un truc: Laurent, j'ai le trac.
Incroyable.
J'ai le trac de faire les truites meunières.
À cause de l'ombre tutélaire de la maman qui vous regardait.
C'est tous les souvenirs qui vont avec ces truites. J'ai dû en cuire des milliers. Et bon, ces truites, elles vivaient dans un grand bassin qui était près de la maison. Et en fait, les truites étaient pêchées à chaque fois que les convives les commandaient. Donc, on avait une... Et il y avait une technique parce que...
Lorsque
la truite sort de l'eau, dès que vous la mettez dans la poêle, elle se tortille dans les sens. Donc, il y avait une technique. Il fallait vraiment qu'on la... il fallait vite la retourner et tout pour qu'elle reprenne un sens normal. Donc, c'était une technique.
Un geste encore une fois.
La recette de la truite meunière, Laurent.
Ah bah la recette de la truite meunière, c'est Guy qui va vous la donner. C'est vous les fariniez,
non? Pas du tout.
Parce qu'on dit meunière parce qu'il y a de la farine. Oui. Hein, meunière.
Alors il y a la recette de ma maman. Elle n'a jamais mis de farine.
C'est ça.
Elle voulait garder le produit dans son originalité. Et c'est vrai que donc il y avait pas de farine. Et là il y avait un petit geste technique pour que dès que on l'a posé dans la poêle, mais la tête et la queue étaient pratiquement on avait un U dans la poêle. Et il fallait retourner tout de suite la truite pour qu'elle reprenne sa forme normale.
C'est ça.
Voilà pour les truites meunières.
Dans du beurre. Alors, bien sûr,
parce qu'on a plein de recettes à passer.
Toujours la poêle adaptée à la taille des truites. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir dans une très grande poêle ovale une seule truite, parce que le fameux beurre meunière va forcément brûler. Donc il faut que ce soit tout ça, c'est le contenu, tout ça, c'était précis.
J'ai l'impression que c'est pas cette semaine que je vais la réussir. Donc voilà pour les truites meunières. Mais le plat signature, la soupe à l'artichaut truffé à la brioche,
je sais
incomparable.
Que vous en êtes fan. Vous en prenez 4 par semaine, Philippe. Alors, quand vous entrez dans le restaurant, l'hôtel de la Monnaie de Guy Savoie à Paris, il y a une phrase qui scintille. La cuisine est l'art de transformer instantanément des produits chargés d'histoire.
Eh bien, instantanément, cette soupe, en joie. Produits chargés d'histoire.
Oui, pardon, oui, absolument, j'ai oublié la joie. Ouais. Eh bien, cette soupe à l'artichaut, c'est la démonstration parfaite de cette phrase, parce que là aussi, c'est un hommage quelque part à votre maman et à sa purée d'artichaut, parce qu'elle disait que c'était la seule purée que vous mangiez enfant, la purée d'artichaut.
Oui, c'est vrai.
Hein, c'est ça.
Elle m'a avoué ça, mais il y a encore que quelques années, donc elle m'a dit que la seule purée de légumes que j'aimais était la purée d'artichaut, donc voyez c'est...
Et il y a un de vos amis qui a dit à propos de cette soupe d'artichaut à la truffe que c'était une parfaite synthèse de vous, l'artichaut pour les origines modestes, la truffe pour la quête d'excellence, et puis la brioche pour le moelleux de l'enfance, et puis pour votre âme d'enfant en
pour
fait.
Pour l'âme d'enfant, c'est voilà.
Ça.
C'était une belle définition, en tout cas elle me convient.
Alors la recette, vous ne pouvez pas la dire ici parce que ça ne se dit pas en une minute. Est-ce qu'elle est à emporter? Est-ce qu'elle est en click and collect?
Oui, bien sûr actuellement au Chiberta. Le Chiberta est notre base, de fabrication en ce moment, qui est 3 rue Arsène Housset dans l'8e, où là on fait à la fois des plats du Chiberta et à la fois des plats du restaurant Guy Savoie à emporter ou à livrer.
C'est le premier plat étoilé qui a été emporté pendant le confinement.
Absolument.
La soupe à l'artichaut de Guy Savoie.
Et le dessert?
Et le dessert, et bien alors on connaît les langues de chat, Hélène Manarino en a parlé tout à l'heure. Quand le restaurant est ouvert, il y a le marron dans le coin, il y a le purement chocolat comme une tarte, il y a le chariot des glaces qui est fantastique dans un 3 étoiles avec les biscuits d'autrefois, et puis il y a une autre douceur qui rend dingue Guy Savoie, c'est le millefeuille. Il lui adresse d'ailleurs une véritable déclaration dans son livre « Savourer la vie ». Je vous lis un petit passage. Il dit que le millefeuille, en fait, avant de se déguster, ça s'écoute.
Ça s'écoute, absolument.
Je tends mon oreille, j'écoute cette merveilleuse symphonie, cette douce mélodie, cette valse à deux temps entre le feuilletage qui donne de la voix et la crème qui susurre, le paradoxe des textures entre le sec et le gras. Parfait. Je vole, je flotte, je suis ailleurs. Ça le rend dingue, le millefeuille à la vanille.
Magnifique. Demain à la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Alors on va saucer demain à la table des bons vivants avec Éric Trochon. Ouais. On va faire un petit cours de jus, un petit cours de sauce. On a besoin de ça pour se remonter le moral. Comme on ne peut pas saucer au restaurant, on va saucer à la maison. Et nous recevrons la chef Hélène Darroze aussi, qui viendra nous faire un joli burger basco-landais. Voilà.
Avec le piment d'Espelette.
Avec du piment. Nous irons récolter aussi en début d'émission le piment d'Espelette. J'y étais il y a 15 jours, absolument.
Vous voyez, j'ai écouté. Hein.
Bravo. Voilà, bravo, ça
voilà
fait plaisir.
Pourquoi il ne pouvait pas vous recevoir il y a 15 jours. Merci beaucoup Laurent Mariotte, on vous écoute demain. Nous, dans un instant, on parlait série avec notre deuxième indispensable, c'est Margot Barallon qui est avec nous pour ça. Mais d'abord musique, un duo, Stevie Wonder et Gary Clark Jr.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie du chef qui déteste qu'on l'appelle chef, Guy Savoy, 3 étoiles. Ça, par contre, il aime bien qu'on le dise et on a raison de le dire. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous nous parlez
bonjour.
De série et ce matin, c'est une série diffusée sur OCS qui s'appelle Industry avec un Y à la fin, c'est de l'anglais.
Exactement. Alors attention, je vous emmène dans un univers impitoyable, pas à Dallas, mais à la City, le quartier d'affaires de Londres. Donc la série s'intéresse plus particulièrement à Pierpoint, une banque fictive évidemment, qui embauche de nouvelles recrues. La première scène, ce sont d'ailleurs ces fameux entretiens d'embauche avec des réponses assez étonnantes.
C'est la première fois que je vois quelqu'un mentionner son QI sur un CV. Pourquoi des études de finance ?
Eh bien, ce n'est sans doute pas politiquement correct comme réponse, mais dans les familles aisées, on peut se payer des professeurs pour masquer la médiocrité. Je n'ai eu l'aide de personne.
Il y avait deux piliers déterminants dans l'éducation que ma mère m'a donnée. Jésus-Christ et Margaret Thatcher.
Comment les définiriez-vous ?
Eh bien, nous devons à l'un des deux le fait d'être ici et l'autre était charpentier.
Voilà, si vous vous demandez encore qui admire Margaret Thatcher à 20 ans...
Et donc, c'est écrit ça aussi, hein.
Oui.
Ça,
c'est...
Belle punchline.
C'est bien un truc de banquier. Alors, l'histoire de la série, c'est justement celle de ces 5 jeunes diplômés aux dents longues qui viennent d'être embauchés, des apprentis requins auxquels on met tout de suite beaucoup de pression.
Pierpoint est le plus grand établissement de services financiers du monde. Pour vous intégrer, vous devez vous comporter comme si c'était votre entreprise. Alors pensez comme un actionnaire, enrichissez vos clients, enrichissez-nous et enrichissez-vous également. Je veux que vous regardiez le gars ou la fille à côté de vous. Regardez-les bien. Vous vous croyez meilleur ? C'est peut-être le cas. Mais dans 6 mois, la moitié d'entre vous ne sera plus là.
Voilà, donc on va suivre nos 5 personnages se débattre dans ce monde de brutes. Alors je vous préviens tout de suite, c'est trash, ça va très vite et il y a du sexe et de la drogue un peu partout.
Dans le monde de la finance, du sexe, de la drogue partout, c'est pas un peu cliché ?
Alors oui, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on a l'impression d'avoir déjà vu au cinéma d'ailleurs, comme dans les séries, toutes ces scènes dans des salles de marché surpeuplées et après on va sniffer discrètement ou pas des rails de coke dans les toilettes. Mais d'abord, il faut savoir que tout est vrai, puisque les deux auteurs de la série, ce sont d'anciens banquiers eux-mêmes. Ils en sont partis pour écrire pour la télévision, mais ils connaissent très bien le sujet. Et l'autre chose qui frappe quand on compare Industry avec d'autres fictions qui ont décrit ce milieu, comme par exemple le film Wall Street en 87, c'est que le monde a changé. On est en 2020, il est plus ouvert, il y a plus de femmes. Le personnage principal de la série, Harper, s'en est une d'ailleurs. Elle se trouve également être noire. Alors, le monde a changé, mais pas trop quand même, parce que écoutez ce qu'elle entend alors qu'elle est aux toilettes et que deux collègues parlent dans son dos.
Regarde la meuf avec la langue dans le nez. Personne ne peut rivaliser avec cette fille. Elle a exactement le profil.
Mais tu sais strictement rien d'elle.
Bah si, je sais déjà qu'elle est noire et qu'elle vient d'une université de merde.
L'un et l'autre sont des obstacles en soi, mais quand tu les cumules, c'est elle la prochaine.
T'es immonde.
Voilà, immonde. Alors, c'est vrai que effectivement, le monde change pas à la même vitesse pour tout le monde, mais je trouve surtout que le plus gros cliché qu'on retrouve dans les fictions sur le milieu de la finance, c'est celui de la rédemption. Il y a toujours un moment où le héros s'aperçoit qu'en fait, le capitalisme, c'est mal, il va le regretter et il va retourner à une vie plus simple.
Et donc là, c'est pas le cas.
Et ben pas du tout. Harper, l'héroïne qui pourtant se fait quand même victimiser par ses collègues, elle est persuadée que la finance, c'est le dernier bastion de la méritocratie. Et tous nos jeunes requins, ils assument d'avoir aucun autre but dans la vie que l'argent et le pouvoir. D'ailleurs, il y en a même un qui dit à un moment, l'idée que quelqu'un puisse gagner de l'argent en faisant un métier qui lui plaît, ça me fait de la peine.
Dingue.
C'est hyper violent. Évidemment, c'est pas le point de vue de la série, ça veut pas dire que la fiction vous encourage à devenir un suppôt du capitalisme, mais il y a quelque chose d'un peu flamboyant à montrer comme ça, des personnages détestables. En plus, ils sont jeunes. Normalement, les jeunes dans les médias, dans les fictions, c'est toujours ceux qui luttent pour le climat, contre les discriminations. Et ben là, pas du tout. C'est vraiment ceux qui sont aussi égoïstes que leurs aînés. Et les moments les plus réussis de la série, c'est quand elles montrent qu'ils sont parfaitement conscients de ça, de ne pas appartenir à cette génération et d'être un peu les derniers de leur espèce.
Dis-nous, vous l'avez bien vendu, ça s'appelle Industry. C'est combien d'épisodes ?
8. Pour l'instant, vous n'en avez qu'un seul qui est disponible et les suivants sortent tous les mardis sur OCS.
Je m'adresse à quelqu'un qui aime son métier et ça vous tente cette série, il dit savoir.
Écoutez, moi, les séries, comme j'espère que les restaurants vont ouvrir très vite, je ne veux pas rentrer dans un enfermement d'une série. C'est toujours assez... je n'en suis aucune. Alors,
Donc,
j'ai la chance de vivre dans un monde tellement concret, tellement dans les rapports humains, aussi bien avec les fournisseurs qu'avec les équipes, qu'avec les convives, que ce monde-là me convient. Et j'y suis bien.
Et les émissions de cuisine, vous les regardez ?
Même pas.
On vous a déjà demandé d'y aller, j'imagine. Pourquoi vous avez toujours dit non ?
Parce que je suis très pris par ma manière de faire mon métier.
Attendez, les autres, ils ne sont pas pris ?
Ah non, mais après chacun, vous savez, ce métier, il y a tellement de manières différentes de le faire. Moi, j'ai décidé d'être l'aubergiste dans mon, dans ma maison, avec mes équipes, avec les convives. Et je vous assure, 12, 13 ou 14 heures par jour, c'est mon quotidien et c'est surtout pas une complainte. Donc, ça me laisse peu de possibilités de faire autre chose.
Guy Savoie, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Margot Barallon. On marque une pause et on revient ici dans Culture Média. On va parler de culture, justement.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie du chef étoilé Guy Savoie, on va parler de quelque chose de plus joyeux, parce que les restaurants sont fermés, évidemment, à cause du Covid et des décisions gouvernementales. Mais il y a le click and collect, en français dans le texte. On prend, on téléphone, et on emporte, on peut aller sur Internet, téléphoner, on peut faire comme on veut. Soupu Ramen, votre restaurant de ramen, Shiberta aussi.
Shiberta aussi, l'atelier Maître Albert également.
Ouais. Et la Monnaie aussi.
La Monnaie, on s'est jumelé avec le Shiberta, parce que on est, comme le Shiberta est de plein pied, donne vraiment sur la rue, donc toutes les problèmes de logistique sont résolus grâce
mais
à cette
façon. Mais donc on peut avoir en click and collect les très très grands plats 3 étoiles livrés chez vous.
On peut avoir la soupe d'artichaut, on peut avoir un petit coffret qu'on a appelé apéritif ou plateau télé, je crois pour autour de 30 euros pour deux.
C'est pas, on n'a pas pour 30 euros des plats 3 étoiles.
Non, on a un petit coffret dans lequel il y a du tarama, il y a un peu de rillettes, il y a du pain, il y a de quoi faire un bel apéro ou un plateau télé pour deux en tout cas. C'est certain. Puis à l'atelier, à partir de 30 euros, vous avez un menu avec une entrée, un plat et un dessert.
Voilà, et par politesse, il y a des gens qui nous écoutent et qui ont du mal à finir le mois, on ne dira pas le prix de l'artichaut à la truffe, mais c'est le prix, c'est un plat à la truffe.
Voilà.
C'est un plat à la truffe. Soupu Ramen, pour ma maman qui habite à côté de Bourgoin-Jallieu, c'est quoi des ramen?
Les ramen, c'est une soupe d'origine chinoise, mais qui a vraiment été mise au goût, si je puis dire, du jour par les Japonais. Voilà, c'est une soupe où il y a des pâtes, un bouillon qui est en principe parfumé, soit à base de bœuf, de poulet, de porc ou de poisson, et puis une garniture autour, soit avec de l'œuf. Nous, on a même fait avec un peu de foie gras poêlé.
Ouais. Non, mais je souris parce que vous avez fait du Guy Savoie. Dans la carte, franchement, il y a des nouilles au poulet, mais il y a aussi du gratin dauphinois, il y a de la brioche de Saint-Genis, vous savez, la brioche avec les pralines roses.
Oui.
On est assez loin de Tokyo.
Oui, mais bon, c'est le mariage de deux cultures gastronomiques qui sont fortes et qui comptent sur la planète. Donc oui, c'est vrai qu'il y a... Mais c'était ma volonté un peu de défendre quoi, enfin tout simplement la gourmandise quoi. On a pris ce qu'il y a de mieux dans les ramen japonais et puis de plus authentique chez nous, la barquette de gratin dauphinois avec la brochette de volaille qui je crois qui est à 9 euros. C'est évidemment un souvenir d'enfance.
Arrête de me dire des petits prix, sinon je vous demande combien ça coûte la soupe de truffe. Alors vous allez voir. Ramen, c'est décoré par Fabrice Hibert, immense Hibert. Artiste contemporain français, plus connu à l'extérieur, à l'étranger qu'en France. Pourquoi ce choix d'avoir un artiste qui décore vos restos?
Fabrice est un ami, c'est un artiste que j'aime beaucoup et je trouvais que sa couleur fétiche, c'est le vert. C'est pour ça qu'on a décidé de faire le sol du restaurant Soupu Ramen, vert fluo. Donc vous savez, qu'est-ce qui caractérise un artiste? C'est son talent et il a occupé les lieux et l'espace avec son talent, ce qui donne ce résultat qui est unique.
Il faut aller voir exactement unique. Prochain projet, un fast-food?
Peut-être,
Je revenais pas, quand vous avez dit ça aux Parisiens, je dis c'est pas possible. Il a dit, Guy Savoie, j'aimerais créer un fast-food à la française, accessible à tous, oui c'est le principe, où on ne mangerait ni burger ni ramen. Alors déjà, vous êtes contre vous-même.
Non, ni burger ni ramen. Non mais ça veut pas dire que je veux pas faire un fast-food à base de ramen, on le fait déjà. Ce qui est plutôt la street food, mais le fast-food, oui, mon rêve, c'est un jour d'inventer quelque chose qui puisse rivaliser avec toutes les chaînes américaines.
Oui. Voilà, avec les prix des chaînes américaines, avec votre qualité.
Avec les produits bien de chez nous.
Alors je serai là le jour où il y a le burger à la truffe, je serai là, surtout si c'est pas un burger. Merci beaucoup.
Il n'y aura pas un burger truffe.
Guy Savoie, qui met en place le click and collect dans ses restaurants, c'est très facile, vous tapez en mots-clés Guy Savoie, et vous allez trouver ça vous guider. Merci.
Vous pouvez téléphoner au Shiberta.
Il y a quelqu'un qui vous répond. Je vais dire quelque chose. Il y a des vrais êtres humains qui répondent à vos téléphones.
Absolument.
C'est assez rare pour être signalé. Dans mon métier, il faut que j'annonce ce qui va se passer lundi. Remercier tout le monde d'avoir été là avec nous et toute l'équipe. Demain, lundi à 9h dans Culture Média, nous serons avec le patron de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, et la journaliste Marie Perraube pour une série documentaire événement sur une affaire qui a glacé la France, c'était l'affaire Daval. Et puis le comédien Antoine Duléry, mais pas pour un film, mais pour un livre qui s'appelle L'Imitateur, où il raconte justement tous ses talents d'imitateur, préfacé par Claude Lelouch. Merci d'avoir été avec nous, Guy Savoie.
Merci, cher
bon
Philippe
week-end.
Dandel.
Après le flash, Anne Romanoff, ça fait du bien. À lundi, bon week-end.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.